Alors, enquête de cinéma, émission de radio sur Radio Galère 88.4. Nous sommes le 28 novembre 2016, en présence de Olivier de Russo, Bruno Muel, David Yon, Francis et Christian Corrouge. Pour une émission autour de... du travail, de la politique, du cinéma, des usines et de la lutte. On va dire ça comme ça. C'est parti. Qui commence ?
Ben, ça fait beaucoup.
Bruno, comment vous avez découvert le cinéma ?
Comment j'ai découvert le cinéma ? J'ai découvert le cinéma avec le regret de ne pas en avoir fait. Parce que j'ai fait la guerre d'Algérie, comme on dit, c'est-à-dire que j'ai été appelé. Et découvrir ce pays, ça m'avait profondément touché. Et puis ensuite, m'a touché le fait de voir l'arrestation des suspects, parce que j'étais planqué. J'ai fait la guerre sans faire la guerre, j'étais secrétaire du capitaine, c'est moi qui faisais les tours de garde. Alors c'était pas un boulot très dangereux, hein. Mais j'allais me balader quand même, parce que j'aimais bien, j'ai tout de suite aimé ce pays. Et j'allais me balader, au début on pouvait encore sortir en laissant son arme, et les mains dans les poches, je pouvais descendre au village où il y avait le marché. Et donc, j'ai fait ça pendant un moment. Et puis, quand j'ai vu qu'il y avait des hommes qui passaient, qui me lançaient des regards qui m'ont troublé. On ne m'avait jamais regardé comme ça. C'est-à-dire qu'il y avait... Je me suis rendu compte que j'étais l'occupant. Et j'ai découvert qu'il y avait une guerre, que cette guerre, c'était pas rien. Et après coup, quand je suis revenu, je me suis dit, j'aurais aimé filmer ce pays. Et d'ailleurs, un des premiers films auquel j'ai participé, c'était Algérie année zéro, de Jean-Pierre Sergent et Marceline Loridan, qui étaient descendus à Alger, qui étaient venus à Alger, c'était des porteurs de valises, comme on disait. Et donc, ils avaient des amis algériens. Et ils avaient commencé à tourner un film sur l'indépendance de l'Algérie. Et moi, je les ai rejoints. En fait, en bluffant, parce que j'étais rentré dans une boîte comme homme à tout faire, c'est-à-dire que j'ai fait tous les boulots de cinéma, depuis électro, machiniste, assistant, stagiaire en tout, enfin, j'étais stagiaire généralisé, mais j'ai dit au patron de cette boîte, moi ce que je veux c'est tenir une caméra, et c'était un bon patron, ça existe. Parce qu'au bout de quelques mois, il m'a dit, tiens, prends cette petite caméra, c'était une paillard à ressort, prends trois bobines de pellicule noir et blanc, tu vas filmer ce que tu veux. Et j'ai été filmé, et je suis monté sur une péniche, et j'ai filmé le marinier, ses gosses, les vélos, sur la péniche, et puis le trajet comme ça, je suis sorti de Paris avec eux, puis je suis redescendu, on a fait développer, et c'était pas mal, c'était, comme je dis dans le bouquin, parce que j'ai écrit un bouquin qui vous raconte tout ça, donc ça se redouble un peu. Hein.
Donc le livre, peut-être on peut juste le citer, Rush de Bruno Muel, aux éditions Communes,
Cinéma
hors capital.
Voilà, c'est Martine Derain qui a récolter ce texte que j'avais écrit il y a longtemps et que j'avais perdu, que j'avais oublié. Et c'est mon copain Jean-Pierre Thorne à qui je l'avais envoyé pour qu'il le lise, qui l'été dernier me dit « Tiens, j'ai retrouvé, j'ai déménagé, j'ai trié mes affaires et j'ai trouvé un texte que tu avais écrit. » Ah ben j'ai dit « Je me souvenais pas. » Il me l'a passé et je me suis dit « Mais il est vachement bien ce texte. » Enfin moi je l'ai trouvé vachement bien. et donc il me dit, je vais le proposer à Martine Derain, qui est mon éditrice à Marseille. Elle avait fait un bouquin sur Jean-Pierre Thorne. Et elle a lu, elle a dit, oh, mais ça me plaît beaucoup. Je me souviens de sa lettre, elle me dit, c'est un honneur pour moi que d'éditer ce livre. J'étais flatté, évidemment. Et j'ai trouvé. Et elle a fait un boulot d'édition formidable, à mon avis. Un boulot comme peu d'éditeurs. Je crois qu'il n'y a pas un seul éditeur qui aurait pu publier ça de cette façon-là. Avec des photogrammes, des films, travailler dans une texture, une matière, une couleur. Même le papier est beau. Je pense que c'est une grande éditrice. Mais j'en étais à mon patron. Ouais. Oui, le lendemain du jour où elle a fait développer cette pellicule, il me dit, maintenant tu es caméraman. Et on tournait des conneries, on tournait des pubs ou des films industriels aussi. C'est comme ça que j'étais venu à l'Alstom de Belfort filmer les locomotives. Et le film industriel en pub, j'ai continué à faire un peu tous les métiers, mais j'étais surtout caméraman et j'ai appris la caméra. Et alors donc, oui, je fais un raccourci là, parce que j'en étais à Algérie année zéro. Et il se trouvait sans caméraman à Alger. Alors il tournait en rond, mais il tournait pas beaucoup de pellicules. Et ils ont demandé un chef opérateur. Et dans la boîte où j'étais, personne ne voulait partir en Algérie parce qu'ils avaient les jetons, c'était juste à l'indépendance, hein, en 62, c'était... eux étaient là-bas depuis, ils avaient filmé les fêtes de l'indépendance en juillet 62, avec je ne sais quel opérateur d'ailleurs, mais ils ne l'avaient plus. Et moi je suis arrivé en disant, je vais faire l'image, et puis ils avaient une caméra, une très belle Ariflex, que je n'avais jamais vue, je ne la connaissais pas. Et puis en fait, j'étais pas chef opérateur, j'étais caméraman, mais pour ce qui est de la lumière, et il a fallu que j'improvise. Et je me suis dit, je vais pas me dégonfler, je vais pas leur dire, et je vais dire, je fais l'image, et puis c'est tout. Et puis au résultat, j'ai été surpris d'avoir fait de belles images. Et je me suis pris de passion pour l'image, de voir que quand même on pouvait montrer des choses, on pouvait montrer des gens, des hommes, des femmes, des visages, des corps. Et tout ça m'a pris dans cet engrenage. Donc le premier film c'est où j'ai travaillé, qui a un intérêt, c'est Algérie année zéro.
C'est en quelle année, Algérie année zéro?
En 62.
En 62. Il est tourné en 62.
L'année de l'indépendance, quoi. Mmh. Alors l'ambiance de l'Algérie de 62, c'était pas celle de l'Algérie d'aujourd'hui. C'est certain que... Enfin, encore que moi, j'y suis pas retourné depuis un moment. Mais je pense que la vie là-bas n'est pas facile. C'est pas qu'elle était facile en 62, mais on sentait quand même quelque chose qui bouillonnait, qui était la victoire, quoi. Il y avait eu...
Une libération.
Une libération, un esprit de liberté qui n'a pas duré tellement longtemps. Parce que on avait été filmé une école à Hydra, les enfants de Chouadas, les enfants des martyrs de la Révolution. Et il y avait une ambiance, c'était des jeunes étudiants algériens qui les encadraient, hein, mais qui étaient très occidentalisés. Il y en a un qui avait une femme suédoise. Enfin, c'était des jeunes qui avaient circulé pour participer à leur manière à la Révolution en cours. Sans être dans les maquis. Et l'ambiance dans cette école de mômes, je me souviens, une petite fille, ils avaient monté un spectacle pour nous faire plaisir, et elle chantait une chanson, c'était en gros « Je suis une porteuse de bombes » et tout le monde rigolait, ça. Et nous aussi ça nous faisait rire.
C'est à ce moment-là où vous rencontrez Mohamed Zinet?
Non, Mohamed Zinet, je l'ai rencontré plus tard. Je ne sais plus très bien dans quel ordre. Je pense que c'est par René Vautier. et surtout par Anne Papillot, qui était une amie, qui est toujours une amie, et qui a beaucoup aidé Zinette pour faire son film. Et Zinette était... il y avait à cette époque... c'est beaucoup plus tard, hein, c'est en 70. Il y avait déjà la déception et beaucoup d'Algériens à Tello, disons, étaient... beaucoup étaient alcooliques. Hein, parce que... beaucoup. Je ne veux pas faire de... donner de proportion. Mais en tout cas, la bande Zinette, Kateb Yassine et Issiachem, le peintre, c'était vraiment un trio de... un peu déjanté. Hein. Kateb Yassine, tout le monde connaît ce grand écrivain.
Les trois, ils étaient liés ?
Ah oui, ils étaient très copains, ils se saoulaient la gueule ensemble.
Et vous étiez avec eux pour vous saouler la...
Non, j'étais pas assez proche. Je n'étais proche que de Zinette. Mais il parlait de... Une fois, on était sur la plage avec Zinette et il nous avait lu le dernier bouquin de Kateb qui venait de sortir, c'est une histoire d'espadrilles. Ça vous dit rien ? L'espadrille de vent, non, je me souviens plus du titre. Ouais, une histoire d'espadrille. Et Zinette, qui était en maillot de bain, assis sur un rocher, il lisait le bouquin en rigolant. Et tout ce qu'écrivait Kateb, ça le faisait rire. Parce qu'ils avaient sûrement des souvenirs qui passaient là-dedans. Et nous, on était pliés en deux, parce que Zinette avait un pouvoir de comédien assez extraordinaire.
C'était quoi comme film qu'il faisait à l'époque, Zinette ?
Zinette, il n'avait fait qu'un seul film, c'est Taïa Yadidou.
Ah, voilà.
Taïa Yadidou, ça veut dire... Yadidou, c'est mon pote. En gros, c'est vive mon pote. Salut mon pote. Parce que Zinette, c'était un enfant de la Casbah. Et d'ailleurs, on a tourné avec une équipe technique, Machino et Electro, qui étaient tous de Casbah Film. Casbah Film, vous connaissez peut-être l'histoire, c'était... c'est Yassef Saadi, c'est un foyer de la résistance, le nettoyage de la Casbah par Massu, c'est une rupture dans la guerre d'Algérie. C'est effectivement extrêmement violent et c'est resté, la Casbah est restée un symbole de la résistance. Et donc ils adoraient Zinette, pour eux c'était leur porte-parole. Et Zinette était souvent dans le cirage quand il faisait son film, mais il avait des traits de génie. Et il fallait que... Ils auraient fait n'importe quoi pour qu'ils puissent faire son film.
C'est vraiment un film culte. Enfin, tous les jeunes cinéastes algériens, ce film-là de Mohamed Zinette, c'est le film avec Nala de Farouk Belloufa. C'est les deux films maudits de cinéastes qui ont fait un seul film et qui sont très importants pour eux.
Ben oui, c'est un film maudit en ce sens qu'il n'y a plus que maintenant un DVD pourri. On a encore fait une projection à Paris la semaine dernière, devant une salle pleine d'ailleurs, parce que pour les Algériens ou ceux qui ont travaillé avec le FLN, il y en a encore qui sont vivants. C'est un film qui a une importance énorme, parce que c'est un film, il y a un souffle de liberté. Et c'est une histoire étrange que l'histoire de ce film, c'est la mairie d'Alger qui a passé commande à Zinette d'un film pour montrer Alger. Et ça s'appelait Alger insolite. Vraiment le titre idiot que Zinette avait transformé d'ailleurs avec l'accent arabe comme il prenait volontiers en caricaturant il l'avait appelé Algérie solide. Et voilà, c'était ça, Zinette. C'était ça et beaucoup d'autres choses. Donc c'est un film, on est nombreux à vouloir ressortir de nouvelles copies de ce film. Ça devrait être faisable. Et on peut supplier le gouvernement algérien, le ministère de la Culture algérienne, de libérer les fonds et retrouver l'original. On sait où il est, en Italie. Et donc on le suit à la trace, le film. Hein. On est plusieurs sur le coup. Et on espère qu'on va y arriver. Il faudrait ce film qu'il renaisse et qu'on puisse le voir. Voilà, ça fait partie des choses auxquelles j'ai participé et qui sont... c'est pas mes films, parce qu'après tout, le plus important, c'est pas forcément mes films. C'est des films qui ont une vie intérieure forte et auxquels j'ai participé. Voilà, je définirais comme ça mon boulot.
Et comment vous passez de l'Algérie à Sochaux ?
Ben, je passe de l'Algérie à Sochaux, je passe en passant par la Colombie. Parce qu'avec Jean-Pierre Sergent, on est parti tourner un film en Colombie avec l'envie de rejoindre les FARC.
Après l'Algérie, alors, dans la continuité ?
Ben, dans la continuité, non, c'est en 65, c'est quand même 3 ans après.
Sur les films que vous nous avez montrés,
oui, c'est
hier,
les films qu'on a montrés hier, oui. Et donc on a rejoint les FARC et c'est là que j'ai fait connaissance avec, entre autres, Manuel Marulanda, le premier grand leader des FARC, le commandant des FARC, et qui était un homme formidable que j'ai beaucoup, beaucoup apprécié. Et je pense que c'est grâce à cet homme et à la fois sa force et son humanité que ce mouvement de guérilla a pu devenir résister aussi longtemps, d'abord, et se trouver dans la situation où il est aujourd'hui, à être prêt à passer un accord de paix, ce qui ne serait jamais vu, une guérilla qui se transforme en un parti politique, un parti politique progressiste, évidemment. Ils ont essayé une fois. Parce que je suis retourné en Colombie en 1983 faire un autre film. C'était au moment, après l'élection de Mitterrand, il y a eu 2 ou 3 ans où la télévision française est devenue un peu plus ouverte. Et j'avais des amis, des gens que je connaissais en tout cas, qui dirigeaient des émissions. Donc j'ai fait une émission sur Antenne 2, sur un cancer que j'avais eu, sur une réflexion sur la mutilation du corps, le mien entre autres, et puis d'autres gens. Et c'est un film qui s'appelle « Rompre le secret ». Parce que je vis toujours avec cette mutilation, mais ça se voit pas. Et c'est quelque chose qui m'avait intéressé d'en parler. Et ce film, il est à l'INA, on doit pouvoir le récupérer, mais j'ai pas les droits, évidemment, je ne sais pas, il faudrait... Je l'ai projeté une fois, il y a pas longtemps, et ça m'a fait un choc de le revoir, parce que je me suis dit, ben oui, je suis d'accord avec ce que j'avais fait à l'époque, ce film. Et puis un autre, qui est ce retour en Colombie, qui s'appelle Longue Marche, et que j'ai fait pour TF1 qui n'était pas encore privatisé. Et c'est un film aussi qui est un peu un film de télévision, qui a l'allure d'un film de télévision, c'est-à-dire c'est pas tellement le cinéma que j'aime, hein, mais malgré tout, qui dit des choses importantes sur les FARC qui, à l'époque, se préparaient à participer à une première opération de vie démocratique normale, c'est-à-dire quitter les armes et rentrer dans la vie civile. Ça s'appelait la UP, l'Union Patriotique. Et l'Union Patriotique a présenté des candidats à peu près toutes les élections en Colombie, municipales, y compris élections présidentielles. Et il y avait des communistes, des gens des FARC et des démocrates, des gens qui pensaient que il fallait changer la vie politique de ce pays. Et ils ont été assassinés les uns après les autres. Il y a eu, en 2-3 ans, il y a eu entre 4 et 5 000 morts assassinés dans la rue, descendus. Donc c'est une période de violence et c'est pour ça que les FARC, je pense, sont très courageux de recommencer la même chose, parce qu'au fond, ce qu'ils font aujourd'hui, ça serait une renaissance de l'Union patriotique. Et c'est pour ça que c'est si difficile et que c'est pas gagné. Mais c'est possible quand même, je pense qu'il y a une forte motivation pour que la Colombie retrouve une vie politique différente. Voilà.
J'étais assez impressionné hier par... c'est des questions par notamment ces films-là, et en particulier parce que c'est vous qui avez filmé Camilo Torres.
Oui.
Dont j'avais entendu parler il y a bien des années, à l'époque où j'avais un peu frayé avec Armand Gatti à Sarcelles.
Oui.
Qui était une des figures pour Gatti très importantes et que moi je connaissais pas, surtout sur la question de la théologie de la libération, et j'étais très très heureux de le voir parler.
C'est la seule interview de lui qui existe au monde, et malheureusement elle est en français. Alors pour les Colombiens c'est dommage que...
Faudrait faire une version sous-titrée.
Faudrait faire une version sous-titrée en espagnol, oui. Ouais. Ben oui. Eh ben, Camilo Torres, c'est une histoire au moment où il y avait en 65 un élan pour un changement politique important. Il était devenu le leader de ce mouvement. Il y avait eu des grosses manifestations à Bogota. Et à la surprise de tout le monde, il a tout lâché de la vie politique pour rejoindre une guérilla. Et en plus, une guérilla minoritaire et peu efficace. L'OLN, qui était surtout composé d'étudiants, qui n'était pas du tout la guérilla de paysans des FARC, qui eux connaissaient le terrain et étaient chez eux dans la montagne. Et l'armée a décidé de le liquider, qu'il ne pouvait pas laisser ce prêtre, un des premiers de la théologie de la libération, effectivement, tenir le maquis. Et ils ont monté une opération très importante, et ils l'ont tué dans 2 ou 3 mois après qu'il ait rejoint le maquis. Voilà l'histoire de Camilo Torres. C'est facile à dire après coup, et on ne peut que saluer son courage, mais on peut penser que c'est dommage qu'il n'ait pas continué la lutte politique, parce qu'il avait les atouts pour entraîner avec lui une partie importante de la population. Mais ça, c'est une analyse après coup, c'est jamais très intéressant. Hein.
Et après la Colombie, alors vous finissez...
Vous savez ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu mai 68 quand même.
Ouais.
Et en début 68, j'étais en Afrique. J'étais descendu tourner un film sur le néocolonialisme en Centrafrique, le pays de Bokassa. J'avais tourné ce film, j'étais une idée saugrenue, j'étais descendu en 2 chevaux, je ne sais pas pourquoi. Et donc j'avais traversé le Sahara en 2 chevaux. Et puis je m'étais trimballé en haut de Sanga. Le film s'appelle Sanga. Il n'est jamais sorti d'ailleurs. Parce qu'il y a eu mai 68 qui est arrivé pendant que j'étais au montage. J'étais en train de finir le montage de Sanga. Donc c'est un film que j'ai fait, mais qui n'est jamais sorti nulle part. Et il y a dedans des interviews quand même assez gratinées d'Européens qui vivaient là-bas et qui parlent des Africains. L'Africain est travailleur, il suffit de savoir le faire travailler. C'était le contrepoint de ce que je filmais des chercheurs de diamants. C'était les chercheurs de diamants. Bon, je ne vais pas vous raconter le film. Et comment je suis arrivé à Sochaux? Eh bien, en fait, par mai 68.
D'accord.
À mai 68, comme j'avais quand même cette réputation d'avoir filmé des mouvements d'indépendance, des mouvements de gauche, etc., j'étais pas au PC, mais j'étais assez proche de gens du PC. et les états généraux du cinéma, ils m'ont filé une caméra. On avait tout centralisé, hein, les gens amenaient leurs caméras, leurs pellicules, et je fais partie des cinéastes à qui on, enfin des opérateurs, à qui on a donné une caméra et de la pellicule. Bah, c'était des amis à nous, c'était Jacqueline Mépiel, entre autres, qui était une monteuse qui est morte aujourd'hui, mais qui est partie vivre à Cuba et qui a créé l'école de cinéma de Cuba. C'est une des créatrices de l'école de cinéma de Cuba, qui est une école très importante pour l'Amérique latine, mais pour le monde entier, en fait, pour beaucoup de pays qu'on appelle du tiers-monde. Enfin,
Bonfanti est allé travailler, je pense.
Bonfanti a enseigné là-bas. Oui. Yann Lemasson a enseigné là-bas. Jacques Loiseleux a enseigné là-bas. Elle m'avait demandé de venir, mais moi je pouvais pas avec mes trucs. Donc je suis descendu à Besançon. Ça c'est Chris Marker qui avait été à Besançon où il y avait la grève de la Rodia Seta. Et Chris avait écrit un papier dans le Nouvel Obs sur la grève de la Rodia. C'est lui qui a lancé tout ça, hein, quand même. On doit beaucoup à Chris Marker. Et je suis parti et je suis arrivé à Besançon, où j'ai rencontré Paul Seb, qui était un ouvrier de la Rodia Seta, mais qui était aussi un des créateurs du CCPPO, le Centre culturel de Palente... Le Centre de culture populaire de Palente-les-Orchamps, voilà, CCPPO. Avec, il y avait Paul Seb, il y avait deux enseignants, les Berchoux, qui étaient des profs de gauche. Ils étaient cathos, eux. Ils étaient cathos et communistes, je pense, même sûrement. Et ce centre culturel, c'était quand même un exemple de culture populaire implanté dans un nouveau quartier de Besançon, tout près de Lippe d'ailleurs, c'est à côté de Lippe. Sauf que Lippe, ils n'avaient pas de bon rapport parce que Lippe, c'était la CFDT et eux, c'était la CGT. Les divisions syndicales étaient déjà assez virulentes. Ce qui est un peu con, hein. Mais c'est comme ça. Et donc moi je me suis retrouvé à filmer Suzanne Zédé, c'est-à-dire la femme d'un militant de la Rodia, Claude Zédé, et dans le film précédent qu'avait fait Chris Marker pendant la grève de la Rodia Seta, qui s'appelle « À bientôt j'espère », il y avait une interview de ce militant, Claude Zédé, et de sa femme, et il expliquait pourquoi il ne voulait pas qu'elle milite. Parce que on ne pouvait pas avoir deux militants dans un couple, alors il fallait qu'elle reste à la maison, qu'elle s'occupe de la gosse, et lui, il militait pendant ce temps-là. Et quand je suis arrivé en mai 68, spontanément, enfin d'un accord général, elle s'est trouvée propulsée à créer un syndicat dans une usine de montres qui s'appelle la Yema, et elle a pris la parole pour la première fois au moment où le patron voulait faire rentrer les ouvriers. Et donc j'ai filmé le premier meeting où Suzanne prend la parole, elle monte sur le mur et elle dit « Camarades, nous avons commencé la grève ensemble, nous avons discuté avec les patrons ensemble et nous terminerons la grève ensemble. » Voilà, c'était le sens de son discours. C'est ce qu'elle dit et puis c'est le sens général de son discours. Et effectivement, l'assemblée des ouvriers qui était dehors, il y avait des copains de Lippe qui étaient venus d'ailleurs, comme quoi les divisions syndicales, ça pouvait aussi se résoudre. Ils ne sont pas rentrés. Et le patron, les gardes-chiourmes qui entouraient le patron ont refermé les grilles, les ouvriers sont restés dehors. Et Suzanne Zédé s'est retrouvée une militante qui avait pris la parole pour la première fois. Et comme il y en a eu beaucoup en France, c'est une chose qu'on a tendance à oublier, mais mai 68, il y a eu une prise de parole par les femmes très importante qui n'avait jamais eu lieu jusque-là. Donc quand on veut dire « mai 68, c'est oublié », c'est tout à fait faux. Je pense qu'il en est resté des choses qui seront inoubliables.
Vous, Chris,
Christian, vous, comment vous rencontrez Bruno Muel ou les coupes Medvedkin ou comment, ça commence par quoi?
Ben, ça commence parce qu'on était tous des jeunes travailleurs et vu qu'on était très isolés de nos familles parce qu'on avait fait tous 1000 ou 500 km pour venir bosser, donc on partait pas le week-end. Et le CE, le comité d'entreprise à l'époque, avait acheté un grand terrain avec des baraquements, avec une maison, un ancien moulin au bord du Doubs, situé entre Besançon et Montbéliard. Et en fait, on passait tous nos week-ends là-bas. Et Paul Seb, qui avait été viré, ou tout au moins a pris son compte de la rue Gaceta, avait été embauché par notre comité d'entreprise comme animateur culturel. Et donc, on passait souvent des week-ends là-bas. En fait, Paul Seb était, comment dire, une espèce de professeur de littérature. C'était quand même un sale con, quand même, hein, mais un gentil sale con. Nous obligeait à lire et nous obligeait donc à regarder des films. Et sur le moment, ça nous emmerdait un peu, parce que quand même, on avait 18 ans, 19 ans, on avait aussi d'aller bringuer puis de faire des conneries. Mais en même temps, on s'obligeait à y aller tous les week-ends, en sachant très bien que la semaine d'après, Paul nous interrogerait sur le contenu de des bouquins qu'il nous avait passés. Et c'était en fait... Donc, c'était une espèce de... On était 20, 15, 30 des fois à regarder des soirées complètes, tous ces films de Bruno. Moi, j'ai vu Rio Chiquito dans ces conditions-là. Tous ces films improbables qu'on voyait jamais nulle part et que là, on les avait à disposition avec des débats derrière, etc. Et puis, Paul, il y a une grande grève des foyers de jeunes travailleurs à l'époque, où on s'était mis en grève. Et Paul a fait venir Bruno et d'autres copains donc, pour voir un peu ce qui se passait. Et donc, on a rencontré tous ces copains qui venaient d'un autre monde, qui nous perturbaient beaucoup, parce que c'est quand même pas simple, hein. De sortir de la chaîne et puis après de tomber dans des discussions où, un peu pas compliquées, mais où on n'était pas prêt à aborder, quoi, simplement. Donc ça remettait plein de choses en cause. Mais finalement, il s'est lié des amitiés. On a pensé que c'était important aussi de montrer ces jeunes ouvriers d'une façon différente. Et donc on s'est mis à travailler ensemble. C'est un peu comme ça, mais avec toujours, parce qu'il y avait un point d'ancrage, Clermoulin, donc cette maison du comité d'entreprise, et puis notre disponibilité à l'époque, puisque en fait, on avait le choix, soit se taper les boîtes de nuit, ou soit continuer à bouquiner, voir du cinéma, et discuter avec des gens autres que ceux qui appartenaient. On voyait bien qu'il y avait un décalage aussi, on sentait bien qu'il y avait un décalage entre nos dirigeants syndicaux de l'époque, et puis ces gars qui venaient de l'extérieur et qui quand même étaient très critiques à un moment donné, et on sentait ce truc, on ne sait pas de quel côté aller. Nos origines sociales faisaient qu'on était poussé quand même vers nos organisations syndicales, et en même temps on voyait bien quelque chose qui coinçait, donc on était toujours très attirés par l'avenue Bruno, Francine, Théo. Mais la personne la plus marquante, en fait, pour moi, c'était Francine qui nous a beaucoup perturbés parce qu'elle avait un discours très, très construit, etc. Et nous obligeait vraiment à lire d'autres formes de livres. La femme de Bruno Muel, son épouse.
C'est ma femme qui est une sociologue qui travaillait avec Pierre Bourdieu et qui est aujourd'hui à la retraite, mais qui a écrit elle a au moins deux livres qui sont des livres superbes de sociologie.
Vous pouvez donner les titres.
Il y a le métier d'éducateur qui a été publié aux éditions de Minuit. Le métier d'éducateur qui met en parallèle, c'est deux analyses différentes mais qui se recoupent entre les instituteurs de la fin du début du XXe siècle et les éducateurs d'après mai 68. Et c'est qu'est-ce que c'est que la vocation d'enseigner, qu'est-ce que c'est que ça s'appelle, le titre le dit bien, le métier d'éducateur.
Et elle s'appelle Francine Muel ?
Francine Muel Dreyfus. Et alors le second livre, c'est un livre sur la période de Vichy qui s'appelle Vichy et l'éternel féminin. C'est comment le régime de Vichy a donné une vision de la femme qui va dans le sens de l'éternel rôle de mère de famille, de torcher les mômes, etc. Enfin, je simplifie, hein, son bouquin est suffisamment subtil pour que je ne puisse pas vous le décrire en quelques mots.
Et Francine, alors, vous a particulièrement marqué ?
Ah oui, parce que probablement elle avait dit dans le milieu ouvrier à l'époque, c'était pas forcément des. Comme Bruno raconte bien avec Suzanne Zédé dans Classe de lutte, cette transformation de la femme qui est femme de militant à la popote, femme boniche, femme potiche, et qui brutalement explose et devient la femme dont tout le monde rêve, une femme militante qui prend la parole, qui est jolie, qui est belle, qui est bien filmée, c'est surtout parce que ben, les images de Bruno sont aussi très, très jolies, et qui prend vraiment son comment dire, toute sa place dans la société. Et donc et Francine, qui était très féministe, nous perturbait beaucoup. Nous, on n'était pas habitués à ce genre de choses. Souvent, c'est vrai que dans le milieu ouvrier, on n'était pas comme Zédé, parce que Zédé, comme, était particulièrement un vieux con, mais on était beaucoup plus libre par rapport à ça. Mais en même temps, on avait quand même le souvenir de notre propre mère ou de nos propres sœurs, qui étaient quand même souvent liées à des tâches ménagères. Et Francine fait exploser cette image, et ça nous perturbait vraiment beaucoup. Mais il nous a obligé beaucoup à lire, je veux dire, en la rencontrant, parce qu'on se disait tous en repartant. Je me rappelle, j'étais souvent avec Cinéa et puis Jean-Claude, et c'est vrai que ça nous perturbait. Mais ça nous obligeait aussi à aller se taper les bouquins de chez Maspero. Il y avait une librairie de poche à Montbéliard à l'époque. Et donc on allait dans cette librairie acheter plein de trucs justement sur les féministes, parce que ça, vraiment c'était un truc qui nous perturbait.
C'est quoi les titres des livres que...
Oh, je ne m'en rappelle plus, mais enfin c'était l'époque où on a lu Simone de Beauvoir, tous les trucs du MLF qui sortaient aussi, toute cette petite collection. Et c'était l'époque où on a découvert ça. Et c'est vrai qu'on a changé beaucoup d'attitude, même militante, à l'intérieur de notre syndicat et à l'usine, à cause de ces rencontres, parce que justement, ça, on pensait qu'on avait fortement raison, et Francine surtout, mais nous a beaucoup perturbés, moi encore maintenant, mais maintenant beaucoup moins, parce que quand je rencontre Francine, c'est une amie, je veux dire, il n'y a pas de souci, encore que la dernière fois qu'on parlait de l'histoire juive, elle m'a redonné, comme une bonne professeure de sociologie, 3 titres à acheter, voilà, mais je suis vachement content, parce que c'est, sinon, jamais moi, j'irais chercher ce genre de truc, alors que c'était facile avec Francine de voilà, être conseiller des bouquins, tu les achetais, c'était bien, hein, donc voilà. Ou le travail à la chaîne aussi, parce que ces gens du cinéma nous amenaient un apport. C'est un peu ce que je disais hier, je veux dire, autant on pouvait critiquer nos conditions de travail, etc., mais autant il y avait peu de littérature abordable dans une province un peu reculée, il n'y a pas de fac, il n'y a rien, et autant on ne trouvait pas de livres traitant de ce sujet. C'est dur de travailler à un endroit et de ne pas comprendre le système, et pas trouver de doc, à part la doc syndicale, qui voilà, mais l'origine du travail à la chaîne, pourquoi il y a un pas qui s'appelle les pas, c'est la distance entre deux voitures sur les chaînes, pourquoi il y a un pas qui s'appelle Bedeau et l'autre qui s'appelle Berlier, des choses que nous, on s'interrogeait et qu'on n'avait pas de réponse. Et il a fallu que ces copains-là viennent, qu'on finisse par comprendre toute cette complexité de cette technologie de management là, qui c'est pas si simple que ça, quoi. Et ça, c'est ça que ça a permis. Et donc on s'est tous éclatés quand même là-dedans, en parlant un autre langage que le langage syndical. Mais ça remet beaucoup de choses en cause, parce que c'est vrai que ça transforme aussi.
Et c'est vous que dans le sang des autres qui faites cette déclaration sur vos mains?
Oui, mais oui.
Est-ce que vous pouvez nous parler de...
Bah, je vais bien en parler. C'est une vieille histoire, ça a commencé surtout avec cette interrogation, avec Antoine Beaufanti, qui était très perturbant, Beaufanti, parce qu'autant il pouvait être silencieux, prenant son avec son casque sur les oreilles, mais avant de mettre son casque sur les oreilles avec son micro et sa perche, quand même, il posait des questions, et Beaufanti plaisantait toujours avec moi. Il y avait d'abord la première question: quelle est la différence entre une photo matérialiste et une photo marxiste? Alors moi, je faisais de la photo à cette époque-là, on développait beaucoup en noir et blanc, et c'est vrai que ça, c'était quand même perturbant. Eh bien, je sais toujours pas. Ben voilà. Et puis la deuxième question, c'était: raconte-moi la chaîne. C'était pour plaisanter, mais il me l'a dit, mais pendant 3 ans, ça, et jusqu'au jour où un soir, parce que je m'étais engueulé à la boîte avec plein de d'agents de maîtrise, enfin sur des trucs, j'ai demandé à 2 copains qui me montent à Paris, puis je souffrais, moi, dans ma vie, c'est terrible de ne pas savoir où on va. C'est facile, en fait, d'être un bon militant et de se donner des objectifs. Moi, je crois que je n'ai jamais été un bon militant, parce que j'ai été jamais capable de ça. Il y a toujours des remises en cause qui s'opèrent. Un soir, comme ça, en sortant, j'ai trouvé 2 copains sur le parking de la boîte et je leur ai dit, ben, montez-moi à Paris, j'ai un truc à dire. Et donc, ils m'ont monté à Paris, je suis arrivé chez Bruno, je ne sais pas si tu te souviens, et je sais pas, on sortait de la promille, donc on arrivait vers 2h ou 3h du matin, je lui ai demandé un magnétophone, je me suis enfermé dans une chambre, j'ai 10 textes, et puis après, on s'est saoulé la gueule, on est reparti.
Vous l'aviez déjà écrit, ce texte? Non, vous l'avez improvisé?
Non. Et je suis reparti, et puis après, ben, je ne savais pas ce que ça allait devenir, parce qu'en fait, c'était un truc pour Bruno, voilà, parce que il fallait que je me libère de quelque chose, et puis après, ben, voilà, c'est devenu tout à fait autre chose. Après, j'ai mal assumé ce texte, c'est difficile après de l'assumer, parce que y a ma vie intime qui est dedans, il y a plein de choses. Pendant 10 ans, au moins, on faisait des projections, je foutais le camp du cinéma, je sortais, je ne voulais pas réécouter ça, c'était... Et puis, y a eu en même temps les retombées qui n'étaient pas forcément... il y a eu des retombées sentimentales dans ma vie de couple, mais il y a eu aussi des retombées politiques, parce que... Le PC à l'époque, beaucoup de militants ouvriers trouvaient inadmissible qu'un militant puisse parler de sa vie intime. Il fallait un groupe ouvrier unifié où on ne parlait pas de ces choses-là. Il fallait montrer l'aspect fort, etc. Jamais ces façons désespérantes. Et donc ça m'a mis mal à l'aise pendant une dizaine d'années en écoutant ce texte. Maintenant je m'en fous un peu, quoi. Je veux dire, je l'aime bien, quoi. Je le réécrirai volontiers, enfin je ne le créerai pas, je le dirai, parce que je n'ai jamais été capable d'écrire quoi que ce soit.
Il a rien perdu de sa puissance, hein.
Voilà,
il donne la chair de poule.
Mais il y a toujours moi j'ai toujours eu un problème à l'écriture, donc autant je parle, autant je suis incapable d'écrire. C'est des choses qui... autant le droit à la parole, j'ai réussi à l'acquérir, mais autant le droit à l'écriture, j'ai une espèce de réserve. Je crois qu'il me faudra un truc qui écrive ce que je dis et puis qui corrige en même temps, mais ce serait plus simple pour moi. Et donc ce texte, ben voilà, c'est comme ça. Puis après c'est devenu... mais Bruno était... Enfin la situation n'était pas simple, c'était comme on a dit hier, c'était... 68 était passé, la répression, le changement, le Chili, l'exclusion du PC, donc on se retrouve un peu encore plus isolé, je veux dire,
c'est... quelle année le film avec le 78 74. 74. Ah oui.
Le film?
Le film.
Ben 73.
73, 74.
L'année... Ah non, c'est 78, c'est le voyage au Chili. Ouais. C'est ça, oui, je
fais... Et donc, c'est une situation où je me suis trouvé très ambigu, où pendant quelques années... j'ai pas fait grand chose en fait, je vivais sur mes rentes. Et puis un jour chez Bruno, il y a eu des tentatives d'échange de cassettes, tu te rappelles, où je disais des conneries et ça n'allait pas. Et un jour en mangeant chez Bruno, j'étais monté à Paris, et un jour j'allais négocier avec la direction Peugeot, je crois. Ça devait être en 80 ou 82 parce que c'était les lois aux roues, et j'allais négocier le droit d'expression des salariés. Voilà, rue de la Grande Armée, là, chez les cons. Là. Mais c'était des bons souvenirs. Hein. Pour la première fois, il y avait un OS qui allait discuter du droit d'expression des salariés. C'était quand même important dans la symbolique, parce qu'en fin de compte, ça ne changeait pas grand-chose. Et donc je me trouve chez Bruno, et Bruno me dit, je te présenterai un copain qui est sociologue et qui est passionné par ce genre d'histoire. Et donc je me suis mis à travailler avec Michel Pialoux, avec qui d'ailleurs on continue à travailler 30 ans, 35 ans après. Voilà, ça m'a permis de surmonter ce truc d'une façon très différente.
Vous avez écrit un livre ensemble quand même.
On a écrit un livre ensemble.
Oui, très beau.
Oui, non, mais voilà, mais ça a donné un autre cours, quoi. Mais tout a commencé par ces fameux groupes Medvedkine et ces rencontres. Voilà.
Mais toi, comment tu rencontres la pratique du cinéma ? Ça s'amène, comment tu rencontres ça ?
Ah, je crois que moi, j'ai jamais rencontré la pratique du cinéma. J'ai rencontré Bruno Muel, Théo Robichet, Antoine Bofanti, etc., plein de copains. Mais en fait, contrairement aux gens de Besançon, aux copains de Besançon qui étaient les groupes Vendite de Besançon étaient beaucoup plus âgés, beaucoup plus aguerris, etc. Nous, on était très jeunes et on n'a jamais eu l'envie de prendre ni une caméra ni rien. Il y avait des techniciens du cinéma qui faisaient ça très bien et ça ne s'est jamais posé comme ça pour moi. Peut-être maintenant. Parce qu'après, mais à l'époque, non, on faisait notre boulot de militant. Je crois que c'était important de témoigner, c'était important de déconner, c'était important de voir cet apport, de vivre avec. Mais on n'avait pas l'idée, je crois qu'aucun du groupe n'a eu la passion d'aller faire Jean-Claude, peut-être pendant une période, mais sinon, voilà, une personne sur 25. Mais sinon, personne n'avait l'intention de... Non, c'était pas... Ils faisaient ça très bien, c'était pas la peine de le faire à leur place. On avait une confiance aveugle. C'était un partage de trucs. Ça se posait pas de ces façons-là.
Oui, moi, par rapport à hier, justement, sur cette parole-là, enregistrée toute seule, tu disais que c'était souvent des déclarations. Et j'ai l'impression que là, on n'est pas dans de la déclaration. On a l'impression que tu te parles... que c'est quelque chose pour toi aussi. Beaucoup plus que c'est... J'ai pas l'impression qu'on est dans de la déclaration, qu'on est plus dans quelque chose qui se raconte pour soi. Le fait que ce soit enregistré tout seul, je trouve ça intéressant aussi. Y a du doute dedans, dans cette parole.
Parce qu'on est autour d'une table, il y a la mer à côté, c'est des conditions qui ne sont pas les mêmes que quand on est devant un public et qu'on s'adresse à un public. Là, il y aura peut-être un public qui va écouter ça, ce que vous faites, mais là, on est là entre nous.
Non, mais sur le quand Christian a enregistré cette parole-là, c'est ça, cette parole-là qui, pour moi, est...
D'abord, ce qu'il faut dire, c'est qu'elle est montée intégralement. Il n'y a pas une seule coupe. Hein, il y a juste les coupes où tu disais Bruno, parce que tu t'adressais à moi, entre les phrases, il disait Bruno, j'ai coupé tous les Bruno, parce qu'effectivement ça faisait bizarre pour mettre dans le film.
Bien sûr.
Alors de temps en temps, il reste un brr, parce qu'on n'a pas réussi à couper au bon endroit.
Mais juste par rapport à ça. Aux deux films qui ont été montrés hier aussi, qui sont le premier, qui est Classe de lutte, Weekend à Sochaux, pardon, je mélange un peu tout, et puis le deuxième où il y a quasiment 4 ou 5 ans de rencontres, de travail, et aussi il y a une période politique très importante qui est celle de l'après-mai 68 et de quelque chose qui aussi se termine ou va ailleurs, je ne sais pas comment le dire, mais ce qui est très important dans ces deux films, c'est que ce qu'on perçoit, c'est la dimension, enfin moi j'y suis sensible pour des raisons quasi familiales, la dimension du travail ouvrier, quoi. Et que la question des mains, c'est aussi celle de la pensée. C'est-à-dire, il y a un bouquin de Denis de Rougemont qui s'appelle « Penser avec les mains », par exemple. Et que cette question, parce que vous dites « je parle, j'écris pas ». Mais par contre, ce qu'on entend, c'est qu'il y a une dimension du travail qui est celle des mains, qui est au-delà de la question de la division travail manuel, travail industriel. Et que cette mutilation dont il est question, dans la question du travail, ça donne à voir très précisément ce que peut être que le travail ouvrier, quoi, dans la chaîne et compagnie. C'est pour ça que c'est très important pour nous, parce que, enfin je pense, hein, parce que on aurait tendance à nous faire croire aujourd'hui que bah, y a plus de dimension ouvrière dans le travail. Quelque chose est en train de muter, et que ces films-là, avec la façon dont les gens sont filmés, c'est-à-dire on voit des visages, des mains au travail, et la chaîne entre. C'est-à-dire qu'on voit cette espèce de... C'est quasi enfer de Dante, hein, on pourrait dire, avec le sang des autres. Et cette dimension qu'on appelle ça du témoignage ou de la déclaration, ça c'est des discussions infinies, mais elle est très importante parce qu'elle fabrique une matière sensible. Et c'est de ça aussi dont il est question, de la sensibilité. Et vous avez raison, enfin tu as raison que l'ouvrier c'est une image, c'est pas une sensibilité a priori. Et mai 68 est venu péter tout ça. Et je pense que votre travail, que ce qui s'est passé au groupe Esvietkin et Sous, amène cette dimension-là, qui est la dimension d'une forme de. De choses qu'on n'avait jamais vues, en tout cas de cette façon-là, et qui est très très précieuse, quoi. Enfin, c'est ça que je suis un peu rapide, mais c'est parce qu'elle est à la fois nécessaire, cinématographique, et construite, et collective. Et que aujourd'hui, c'est des choses très importantes. Mais vraiment, hein, mais pas simplement dans le cinéma. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait ensemble quand on fabrique quelque chose dans cette dimension du travail qui maintenant est complètement éclatée, quoi. Et là, cette centralité-là qui apparaît, elle est. C'est. Enfin, il n'y a pas de mots pour dire. Pour moi, je vais pas faire de théorie là-dessus, mais c'est.
Bah, c'est pour ça qu'on fait des films, peut-être.
C'est-à-dire.
Bah, quand on n'en trouve pas les mots, on peut faire des films.
Voilà. Ça fait penser à Deligny aussi, avec lequel vous avez effrayé aussi. Oui. La question de ce texte qui s'appelle La caméra, outil pédagogique. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que l'apprentissage en tant que c'est pas quelque chose qu'on va nous dire, mais qu'on va apprendre nous-mêmes grâce à la rencontre, quoi. Enfin, voilà, c'est...
Olivier a fait un film accosté qui commence par cette phrase: on avait tellement de choses à se dire qu'on a commencé par se taire.
Oui.
Et qui gravite autour de Deligny aussi.
Oui, des usines, parce que j'habite dans un quartier à Saint-André où, dans le nord, où là les usines c'était les usines textiles, toute ma famille y a bossé, Usinor à Dunkerque et compagnie, la pollution, où je suis arrivé à habiter là et toutes les usines sont détruites maintenant. Et donc la question c'est qu'est-ce qui reste de ça si on pense que c'est important, cette dimension. Voilà, c'est pour ça que c'est très bien d'avoir montré. Puis la dimension de Katabiasine, du polygone étoilé, tout ça se croise, c'est très.
Mais
c'est bien quoi.
Nous, notre rencontre est quand même particulière parce qu'elle est quand même complètement mêlée à mai 68 et la parole s'était libérée quand même.
Oui.
Et c'est vrai qu'avec avec vous, avec les jeunes ouvriers, on a commencé à parler tout de suite.
Oui,
hein. Il n'y a pas eu de blocage. Surtout qu'il se trouve que nous, on était, disons, des intellos, et on n'était pas des gauchistes. Parce que les gauchistes ont une particularité, c'est qu'ils veulent expliquer les choses. Ils vont voir les ouvriers, ils leur expliquent qu'est-ce qu'ils sont, qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent, etc. Nous, on arrivait, on disait, vous avez des choses, on va vous apprendre des choses, mais vous avez des choses à nous apprendre.
Oui, et c'est cette dimension-là qu'on voit.
C'est réel.
C'est vrai que souvent, moi, souvent ces mecs qui ont fait des films sur l'usine viennent, ont peu de filiation, arrivent, font leur truc et se tirent, quoi. Alors qu'avec l'équipe de tournage qu'il y avait, c'est des amitiés fidèles qui sont restées ancrées dans le temps. Avec Bruno, Francine, Théo aussi, que j'avais revu il y a 3 ou 4 ans, ou Antoine, c'était quand même des trucs qui, qu'on durait toute ma vie professionnelle. C'était devenu autre chose que ces films qu'on a pu faire. On a continué sur le même registre, mais différemment, mais toujours avec une prise de contact importante, contrairement à plein de gens qui viennent filmer, puis qui foutent la caméra, qui prennent un truc et qui se tirent, quoi, qu'on ne croit jamais. Ce qui est désespérant d'ailleurs pour les ouvriers qui filment, hein, parce que c'est pire d'avoir été filmé, de ne jamais pouvoir en discuter ou de créer un lien amical. Non, c'est tout le contraire qui s'est passé, je veux dire, avec. D'ailleurs, on voit bien aujourd'hui, puisque 40 ans après, on continue. Avec tendresse et différemment. Quoi. Bon.
Vous avez travaillé à la diffusion de ces films ?
La diffusion.
Hier, vous parliez, vous aviez loué un.
Ah non, mais oui, mais là, c'était différent. C'est pour le Chili, parce que pour
Ça veut dire que c'était important pour vous que ces films soient vus ?
Bien sûr. Où il y avait beaucoup de difficultés, c'est parce que vu que le PC ne voulait pas beaucoup de nos films, ni avec le sang des autres, parce qu'il était quand même un peu réticent. Et puis, Septembre chilien surtout, puisque. Il y avait une fameuse phrase que le PC voulait faire enlever, à laquelle on s'y opposait, enfin surtout toi d'ailleurs. Et donc le PC a refusé de le diffuser, donc on s'est trouvé. La phrase c'est la.
Sur
sur la, le peuple n'avait pas d'armes.
Voilà. C'est sur méfiez-vous la... un peu en France, parce que voilà, les militaires aussi, voilà, vous êtes aussi dans l'unité de la gauche, mais quand même, faites attention à l'armée, quoi, ça voulait dire ça. Et donc le PC ne voulait pas qu'il y ait cette phrase qui figure dans, dans le truc. Ben, c'était une époque, hein, c'était pas non plus... Et donc, nous, à Montbéliard, on a décidé de louer... des militants communistes ont décidé de louer le théâtre de Montbéliard de leur poche pour présenter ce film. La salle était pleine, c'était un beau truc, hein, c'était un magnifique truc quand même. Et bien sûr, il y a eu clash, dont Lièvremont qui les a traités de pisse froid, donc tous ces dirigeants. Nous, qu'on arrivait avec un montage, avec la texte, parce que Bruno, dans l'avion, quand il partait au Chili, nous avait envoyé une lettre en expliquant pourquoi il partait au Chili et racontant un peu tout ça. Je crois que je l'ai dans mes archives, donc il faut que je fouille pour la retrouver. Et à partir de cette lettre-là, on l'avait lue. Et dessus, on avait mis des diapos. Et donc, on mettait des trucs, mais surtout des troupeaux de vaches, pour montrer dans quel état nos dirigeants du PC étaient réduits. Et donc, ils n'ont pas beaucoup apprécié. Et on a tous été virés, quoi. Mais c'était dur, hein, parce que... Mais en même temps, maintenant, je crois que c'était... Bon, c'était pas plus mal d'être un peu en dehors. Familialement, moi, je suis resté proche du PC, parce que, bon, c'est compliqué. Tous mes frangins sont encore au PC, mon père avait été communiste, déporté communiste, c'est compliqué, mais j'ai toujours accompagné avec beaucoup de réticence, quand même jamais oublié les gens qui m'avaient su la main levée. C'est douloureux, hein. On dit qu'il n'y a pas d'exclusion, mais quand on se fait convoquer à 3h l'après-midi et puis que le comité de section est réuni, tous les copains quand même, avec plein de luttes, hein, communes, et qui nous foutent dehors, c'est quand même compliqué à vivre. J'étais avec René, on en a pleuré, quoi. Je veux dire, c'est des trucs quand même très... très hard, hein, et comment on fait le lendemain dans l'usine. Nous, quand on était connus pour militants communistes, et comment on fait pour dire, ben, on était virés. Donc on ne le dit pas, on continue à vendre l'humain, pour pas toute une période pour passer ça en douceur. Et mais voilà, c'est la vie normale, bon, simplement, hein. Et puis après, bon, on réapprend à vivre, en se faisant simplement un plaisir que tous ceux qui avaient levé la main pour nous exclure, on s'arrangeait avec des rapports de force dans le syndicat pour les mettre dehors. Voilà, donc en carrosserie, par exemple, où je travaillais, il n'y a plus tous les gens qui avaient voté notre exclusion n'ont plus jamais eu de mandat syndical. C'était une espèce de vengeance, ça a mis 5 ans, mais on a réussi à les avoir un par un. Mais c'était une espèce de vengeance qui nous faisait beaucoup rire, hein, mais encore un. Donc on avait notre liste avec René et puis Jean-Claude et on les alignait. Mais c'est des choses... Mais après, bon, on a... Il y a eu aussi en même temps des choses formidables, parce que en écrivant ce texte, ou en le donnant plutôt à Bruno, on s'est aperçu avec mes potes en carrosserie que c'était pas normal de vivre comme ça. C'était pas normal qu'on soit des milliers sur les chaînes de montage, aussi bien chez Renault ou ailleurs, à se dire, enfin, on pouvait pas penser que, parce qu'on n'avait pas été beaucoup scolarisé, parce que d'arriver à une chaîne de montage et finir à 60 ans, ou peut-être même avant, avec les décès prématurés d'accidents de travail ou maladies professionnelles, c'était illogique que le cerveau humain, enfin que l'homme, soit uniquement voué toute sa vie à serrer un boulot. Ça nous a paru comme une révolte légitime. Et le mouvement des OS qui a apparu beaucoup dans les années 80, donc même chez Volvo, où ils ont changé les types de production, ils ont mis des productions hors chaîne, à Sochaux aussi, il y a eu un atelier qui a été fait, donc c'était à la poussée quand même des revendicatifs de faire les bagnoles autrement, donc en dehors des chaînes. Peugeot trouvait des systèmes de montage où chaque gars, au lieu de travailler une minute par bagnole, pouvait travailler une demi-heure ou trois quarts d'heure. Et on voyait bien qu'il y avait, chez Renault aussi, donc il y avait toute cette poussée qui avait été amenée comme ça par le mouvement et qui nous faisait relativement plaisir, qui nous ont permis aussi d'aboutir différemment jusqu'à la grève. Il y a eu des trucs très... En 81, par exemple, la première grève qu'il y a eu après l'arrivée de Mitterrand, c'était à Sochaux, donc c'était en carrosserie. On s'est mis 3 semaines en grève, justement, en disant maintenant que la gauche est au pouvoir, il faut changer les conditions de travail. C'est plus admissible. Et après, c'est Poissy qui est rentré dans la bagarre et Aulnay. Et chez Aulnay, Mauroy, qui était premier ministre, a dit c'est quand même pas des ouvriers musulmans qui vont dicter la loi. C'était en 82, hein. C'était terrible quand même d'entendre ça. Et donc, il y a un sentiment de lutte qui, voilà, qui a perduré de cette façon-là. On a appris à se battre aussi autrement sur des plateformes revendicatives, mais liées spécifiquement au travail de OS, au travail en chaîne. Parce qu'on croit, en fait, Bruno aurait dû faire un troisième film, je crois, moi, sur que, comment, en travaillant en chaîne, on prend toujours ça pour un travail uniforme. Comme si... Non, c'est plus compliqué que ça, un travail en chaîne. Il faut une dextérité, une vitesse, une réflexion. Et c'est ce travail de réflexion pour amener mon test-pièce sur la voiture, alors que les voitures deviennent de plus en plus complexes. Avant, on te pompait que tu as ton énergie physique, la force physique, tu revenais cassé du boulot. Alors que maintenant, tu ressors cassé du boulot, mais en plus, tu as le crâne démoli complètement, qu'il faut penser à un tas de choses. Un mec qui monte un pare-choc, il doit mettre un autocollant avec un code-barre. Le code-barre de la bagnole, voilà, c'est tout de suite un truc en plus. Nous, on n'avait pas encore ça à notre époque. Et puis les anomalies, des mecs à qui on faisait monter une ampoule de feu arrière, par exemple, alors qu'avant, il venait de monter un boulon et il avait les mains pleines de graisse. Va monter une ampoule, passer les doigts dans un phare pour monter une ampoule quand tu as les doigts pleins de graisse. Et c'était des anomalies d'un système. Et c'était tout ça qu'il fallait arriver à remonter dans les plateformes revendicatives, que l'humain n'est... Enfin, je sais pas, mais le film que le futur, peut-être, parce que bon, on verra bien, mais je pense que c'est ça, changer le travail différemment. Que ça soit inscrit à l'ONU, qu'il est interdit de faire travailler des gens en chaîne. Travailler autrement, vraiment, ce serait simplement une justice. Quand je vois, je fais encore une fois par mois, je fais les sorties d'usine. Je vais à 9h30 voir comment ces jeunes sortent de la boîte. Et moi, j'ai l'impression d'une fatigue, mais d'une fatigue, une horreur. Parce qu'on prend des intérims. Comme ça, on ne paye plus les maladies professionnelles. C'est ça, à l'heure actuelle, ce qui se passe dans l'industrie automobile. Sur une chaîne de montage, il y a sur une équipe de 25, il y a 23 intérims et 2 titulaires. Et ces 23 intérims qui souffriront forcément de maladies professionnelles, les épaules, les mains, toutes les articulations, les genoux. Parce que la marche sur les chaînes, sur des sols durs, c'est épouvantable quand on arrive à une cinquantaine. Donc, on a des maladies, mais vu qu'ils étaient intérims, ben jamais les patrons paieront. Ben, c'est ça. Et ils en sont arrivés à l'heure actuelle à dire qu'il faudrait, pour que les gens s'usent moins vite, les changer 6 fois dans la journée de travail. En 8 heures, il faudrait qu'ils changent de poste 6 fois, uniquement pour les user plus longtemps, que les articulations soient moins frappées toujours au même endroit. C'est là-dessus qu'ils réfléchissent. Et on ne voit pas beaucoup d'enquêtes médicales. Il y a quelques sociologues qui y travaillent, quelques médecins du travail, mais bon, voilà. Mais autrement, il n'y a absolument rien. Et dans les organismes syndicales, actuellement, vu les rapports de force et les difficultés qu'ont les syndicats à l'heure actuelle, il n'y a plus absolument rien fait dessus, sur cette réflexion.
Et quand vous dites un troisième film, c'est-à-dire que vous continuez à faire des films?
Bien sûr que non, moi j'ai 80 balais, moi. Je vais pas me mettre à faire un film maintenant. Mais
c'est un peu dommage, c'est un peu dommage, mais voilà, les choses sont comme ça.
Dans la perche.
J'ai fait mon temps.
Vous avez arrêté quand de faire des films?
Oh, il y a longtemps. Non, j'ai arrêté, le dernier film que j'ai fait, c'est avec le sang des autres. Oui, donc c'est en 75.
J'ai pas... il y a eu ton film sur le cancer.
Alors, j'ai fait deux films
avec la télé,
qui sont des films différents, parce que c'est des films format télé, quoi, formatés pour la télé, mais où j'ai quand même pu dire des choses que j'avais envie de dire, que je voulais dire, hein, surtout... le film sur le cancer, ça se termine avec Antoine Paléo, qui était un des ouvriers de l'usine, qui était un porte-parole de la fonderie, qui était un résistant en Espagne, qui a quitté la clandestinité en Espagne après la guerre. Il est resté, il a fait de la tôle. En Espagne pendant la guerre, ensuite il a lutté dans la clandestinité en Espagne et il est venu, il était marin, il est venu, il a frété un vieux rafio et il a emmené toute une équipe de réfugiés qui sont arrivés à Biarritz. Voilà le genre de mec que c'était. Et il a eu un cancer du larynx. Et cet homme de parole qui avait passé sa vie à parler, qui nous faisait rire d'ailleurs, c'est lui qui dit, il y a deux choses, il y a les exploités et les exploitateurs. les exploitateurs. Ça nous, on lui rappelait toujours ça, il disait, mais c'est beaucoup mieux, exploitateur, c'est plus fort. Voilà le genre d'homme. Alors lui, je l'ai filmé effectivement en 82, je crois. Ouais. Et il parlait avec une trachéotomie et c'est sa fille qui était devenue médecin. La petite Annette, c'est elle qui termine Week-end à Sochaux en racontant comment elle voit l'avenir. C'était une petite gamine qui venait avec nous et elle. On avait posé la question bêtement, on disait comment vous voyez l'avenir. Et tout le monde a dit, l'avenir, on voit pas très bien. Personne ne voulait dire comment il voyait l'avenir. Et Annette a levé le doigt en disant, mais moi je vais vous dire comment je vois l'avenir. Et d'une traite, elle nous a sorti. C'est comme le texte de Christian. C'est sorti d'une traite. On lui dit, mais c'est formidable. Et tout le monde, on avait les larmes aux yeux tous. Et on dit, ben on va monter derrière ça, dans la montagne, tu vas nous le redire.
Elle l'a redit.
Et elle a redit mot pour mot le même texte qu'elle avait sorti. Comme quoi c'est des choses qui sont... C'est pour ça que je parlais de déclaration. Mmh. C'est pas complètement idiot quand même. C'est, elle a quelque chose à dire. Mmh. Il faut qu'elle le dise. Lui, il avait quelque chose à dire, il fallait qu'il le dise.
Oui, c'est ça.
Ça que je veux dire.
Oui, c'est
pas déclaration au sens,
dire, pas du,
au
c'est
sens
pas du bavardage,
prise de parole politique.
Discours,
c'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire que c'est des choses qui doivent être dites et qui peuvent pas se dire autrement et qui doivent sortir.
Oui, il y a une nécessité.
Oui, c'est ça que je veux dire.
Et puis c'est cette petite fille-là qui porte, à ce moment-là du film,
oui,
tout votre combat, en fait, dans cette parole-là,
bah, oui,
vos espoirs.
Alors ce qu'elle dit, c'est extrêmement naïf, mais peu importe.
Attendez, la question des maisons qui seront ouvertes,
oui,
sans des clés,
portes ouvertes, bah,
la compagnie, fait, tout ça,
bah,
c'est
oui,
des choses
sûr.
Très... C'est pas...
Ah bah ça reste complètement valable. Et d'ailleurs, je lui ai plusieurs fois demandé, parce qu'on se revoit aussi, et à chaque fois, elle me dit, j'aurais à le refaire, je referais exactement pareil. Je retire rien de ce que j'ai dit. C'est marrant, hein.
Et elle parle doucement, comme tous les ouvriers dans les films. C'est cette façon de parler aussi qui est remarquable, qui est très... Il y a un accent par chez vous, hein, qui est, qu'on entend,
bah oui,
mais qui est très... qui est habité par une vraie douceur et une précision, quoi. Et ça, c'est ce que ça fabrique dans les oreilles et dans les images, c'est rare, quoi. C'est marrant, cette façon de parler.
Ouais, c'est très beau.
Ouais.
Et donc après, j'ai pu faire de film et j'ai simplement produit, j'étais producteur. J'avais créé une société de production à mon nom, j'étais tout seul. Et j'ai produit deux films, les deux derniers films de Renaud Victor. C'est-à-dire Fernand Deligny, à propos d'un film à faire.
Ah, d'accord.
Et un autre film, qu'est-ce que j'ai produit d'autre? Ah, bah oui, La prison des Baumettes, bien
voilà.
Sûr.
Ouais, ouais.
Hein, de jour comme de nuit. Que d'ailleurs on est en train de réfléchir pour les sortir en DVD, parce que De jour comme de nuit, qui est un film sur l'enfermement, un magnifique film tourné à la prison des Baumettes, n'est jamais sorti en DVD.
Et, ouais.
Et donc on aimerait bien faire un DVD où on pourrait regrouper les deux derniers films de Renaud Victor, parce que Renaud Victor, il est mort à peine il avait fini de tourner De jour comme de nuit, et il est mort.
Et pourquoi vous avez décidé d'arrêter de faire des films?
Bah, je sais rien, ça veut... D'abord...
Vous n'avez pas décidé.
Ça concerne que moi, d'abord.
D'abord.
Non, je n'ai pas envie de répondre à cette question, je ne sais pas.
Vous aviez plus envie?
Bah, sans doute, oui. Plus suffisamment envie.
Mais et comment vous êtes amené à produire Renaud Victor?
Parce qu'il fallait bien que je fasse quelque chose.
C'était une rencontre.
Je le connaissais, je l'avais croisé, on se connaissait quand même. Mais oui, je l'ai rencontré et il m'a dit je suis en train de démarrer un film avec Fernand Deligny, mais j'arrive pas, les producteurs ne me suivent pas. Et je lui ai dit, bah, écoute, moi je vais monter une boîte de production et je vais te le produire. Donc j'ai repris ce qui avait déjà été filmé, presque rien d'ailleurs. J'ai un peu payé les dettes qu'il avait et puis je l'ai aidé à faire le film. Avec Arte à ce moment-là, avec Thierry Garrel qui lui voulait un film sur Deligny mais qui ne voulait pas de Renaud Victor. Mais donc on lui a amené ce qu'on avait tourné et il a sorti le truc.
Vous connaissiez un peu Fernand Deligny de pratique?
Non, je ne connaissais pas Fernand Deligny, mais moi-même j'avais fait j'ai été moniteur dans une clinique psychiatrique.
D'accord. Ah bon.
À la Chênaie, c'était. C'est comme la Borne, hein, c'est juste à côté.
Fondé par Guattari, je crois.
La Chênaie, c'était pas Guattari, il était plutôt à la Borne.
Mais je sais plus très bien, mais je pense que c'était en lien quand même.
Mais pendant 2 ans, donc, j'ai été moniteur, c'est-à-dire en fait infirmier psychiatrique, quoique je ne suis pas infirmier du tout, mais. Donc j'avais une certaine connaissance de ce que c'est que des fous.
D'accord.
Et des gens enfermés. Encore que c'était des cliniques où ils n'étaient pas très enfermés. Mais...
Oui, la Borde et la Chênaie, c'était plutôt...
C'était de l'antipsychiatrie, oui. C'était une autre époque.
Qui vient aussi de Peuple et Culture et de la question de la résistance et tout ça.
Oui, tout ça. Deligny était un héritier de Peuple et Culture, mais Chris Marker aussi, et le CCPPO aussi. Oui. Les gens de Besançon... étaient des héritiers de Peuple et Culture. Il y a toute une histoire qu'on peut remonter effectivement jusqu'à la résistance, jusqu'à la libération. Bon, mais écoutez, on en a assez dit, il me semble.
Moi, j'aimerais juste terminer par... parce que moi, ça m'a toujours interrogé, mais je ne sais pas si on peut donner des réponses, mais cette rencontre très forte qu'il y a eu entre des cinéastes et des ouvriers dans les années 68 qui arrivent après mai 68, moi ça me pose beaucoup de questions par rapport à mon présent, quoi, où les choses sont très différentes et des fois je me pose des questions parce que je ne sais plus trop ce qu'est le monde ouvrier, je ne sais plus trop ce que sont les cinéastes, et je me pose des questions, qu'est-ce que je fais de cet héritage et de cette histoire qui pour moi est super importante, mais
vous la recommencerez pas comme elle s'est faite, parce que l'époque n'est plus la même, mais il y a d'autres choses possibles, évidemment. Je sais pas, c'est à vous de voir, c'est pas à nous qu'il faut demander ça.
Non, mais je sais, mais vu que vous êtes encore au présent, mine de rien...
C'est un problème.
Tu continues à aller aux usines, prendre des nouvelles
bien sûr,
de comment le travail se transforme.
Je sais pas, on peut pas avoir passé 43 ans dans une boîte en étant indifférent au sort de ces jeunes ouvriers. Ce qui a beaucoup changé, c'est la percée. Je veux dire, on était dans un moment favorable après 68 où les grèves étudiantes ont fait que nous, jeunes ouvriers, il y 68 pour les ouvriers, c'était quelque chose d'important, mais c'était surtout les leaders syndicaux, je veux dire. Et voilà. Et puis il y avait cette jeune ouvrier qui était entre les deux, qui ne voulait pas forcément ressembler à ces leaders ouvriers militants et qui était plus proche des manifs d'étudiants. Donc ça nous obligeait aussi à bouquiner beaucoup parce qu'on avait envie de leur ressembler. Pourquoi que nous, on n'avait pas eu cette chance d'accès à la culture ou au savoir? C'est des trucs importants qui minent après. Comment se fait-il qu'on puisse arriver à 18 ans sans avoir jamais été au théâtre? Voilà, parce que c'était ça aussi, les jeunesses ouvrières de l'époque. On n'allait pas au théâtre, on n'allait pas au concert, on n'allait nulle part. Et il y avait une espèce de vengeance avec nos premiers salaires. Moi, je me souviens avec René, et puis il y avait Doisy aussi. Et c'était de prendre pratiquement le tiers de notre salaire pour acheter des livres et de faire ça. Mon copain Le Diguerreur achetait de la peinture. Mais il achetait de la peinture à crédit, je veux dire. Il empruntait pratiquement à l'époque une brique. C'était 6 mois de salaire pour acheter un tableau. C'était un endettement terrible. Mais le goût de la... c'était ça aussi. Ce groupe Medvenkin, c'était ça. C'était des gens qui... qui achetaient beaucoup de livres, qui les prêtaient, qui les donnaient sur les chaînes de montage parce qu'on trouvait ça intéressant. Jamais on a acheté autant de bouquins de Roger Vaillant ou de Prévert pour distribuer le long des chaînes de montage parce que c'était un combat différent. Il y avait le côté syndical avec les revendications syndicales et en même temps il y avait l'autre aspect de dire on ne peut pas continuer comme ça. Et maintenant même à mon âge, mon grand âge, parce que je deviens vieux parmi les vieux ouvriers maintenant, les cinéastes ils vivent beaucoup plus longtemps, il y a quand même ce truc au sein, moi j'appartiens à la section des retraités, le mois dernier on est allé à Ornans voir une expo Courbet, c'est une anecdote marrante parce que dedans il y avait une enseignante agrégée dans un resto qui a voulu dire bah, je peux vous aider, je peux faire la présentation de Courbet, etc. Parce que c'est vrai qu'elle est préparée à ça, et je me suis engueulé avec elle en disant non, il n'est pas question de laisser parler de Courbet par un enseignant, c'est moi qui vais le faire, c'est parce que, alors ça pose des problèmes après, parce qu'il faut que j'en bouquine un peu quand même sur Courbet, etc. Mais voilà, c'est entraîne 40 retraités à aller voir et parler de Courbet d'une façon différente que la peinture ou la façon de poser la peinture sur une toile. On parle de Courbet, l'homme Courbet, qu'est-ce que ça veut dire comme opposition à la société dans laquelle il était. Et c'est toujours ce combat quand même qu'on continue à mener, donc c'est pas non plus... Il faut aimer sa peinture, et puis il faut aimer aussi sa provocation de Courbet. Et puis c'est quand même le premier qui a peint des ouvriers au travail, les casseurs de pierre. C'est en pied, je veux dire, en grand tableau. C'est ça qu'il faut raconter sur Courbet et son engagement dans la Commune de Paris, qui n'est pas quand même insignifiant. Je crois que la première ministre de la culture du monde, c'est Courbet, moi, je crois, la Commune de Paris. Mais et c'est des choses comme ça qu'il faut raconter aux ouvriers. On ne va pas leur raconter que peindre à la palette, c'est plus intéressant que... Bon voilà, rien à foutre, enfin je m'en fous. Ça me semble beau, ça me semble pas beau. Par contre, on l'a visité, cette expo, avec Francine et Bruno Muel. Et c'était une journée charmante, il faisait beau, et on a apprécié Courbet. C'est vrai qu'après qu'on ait été retraité CGT, c'est un peu différent. Il faut être un peu plus hard, mais nous, c'était cool quand même. Mais en même temps, ces genres de combat, comment amener même ces gens qui sont en retraite, parce que les actifs, ben, ils ont leur propre délégué, mais nous, en tant que retraités maintenant, et ben, c'est comment amener ces retraités à aller voir autre chose que de jouer à la pêche à la ligne, ou à la pétanque. On va arrêter de se faire chier quand même dans cette vie, quand même. Il y a des trucs plus importants. Voilà, c'est d'autres formes de combat, mais qui sont quand même, qui valent quand même la peine. Quoi. C'est vrai que c'est différent. Moi, j'ai connu les chaînes de montage avec des gens qui bouquinaient beaucoup. Il en reste quelques-uns, mais ça s'est perdu, quoi. Chacun est sur son smartphone, là, en train de... Je ne sais pas quoi faire, parce que, bon, je ne connais pas les techniques modernes, là, j'arrive pas. Mais, et donc, c'est très différent par rapport à ce qu'on a vécu, nous. Mais ils trouveront des solutions différentes, et le mouvement social, ben, il reprendra son envol. Je veux dire, moi, je suis assez optimiste. C'est pas parce qu'on est au creux de la vague, on se dit tous, il n'y a plus rien, qu'à un moment donné, il faudra bien qu'il y ait quelque chose. Je veux dire, dans le 5 décembre, je vais rencontrer des copains en Allemagne d'IG Metall, l'aile gauche d'IG Metall, et bien on va recommencer avec des copains allemands, parce que voilà, bah c'est tout, c'est la vie normale, et puis il y a quand même un fond, ils ont bossé sur ces sujets ouvriers, les mecs de chez Volkswagen, il y a un truc qui est extraordinaire quand on va chez Volkswagen ou chez Mercedes à Stuttgart, c'est que nous à l'usine, on a des portillons avec 4 barreaux pour rentrer avec un pass, et chez Mercedes, c'est 3 barreaux tellement qu'ils ont de ventre et tellement qu'ils boivent de bière. C'est un truc. On pourrait faire le tour comme ça des usines, comment les patrons modulent suivant l'envergure des gens, l'épaisseur des cordes, tourniquets, comment on adapte les tourniquets pour que les mecs aillent bosser. Mais ça m'a fait beaucoup rire. Il y a des trucs comme ça. Mais en même temps, et moi qui ai eu beaucoup de réticence à aller en Allemagne, je suis rentré en Allemagne très tard. Je suis rentré en Allemagne, je crois, c'était avec Cordula et c'était en 85 parce que j'avais jamais foutu les pieds en Allemagne vu l'histoire de ma famille. Il y avait une espèce de truc, et je me suis aperçu qu'en Allemagne, il y avait des mecs extraordinaires et des militants extraordinaires qui vivaient exactement les mêmes choses que nous, on avait pu vivre à Sochaux. L'usine de Stuttgart est restée dans la même configuration que toi quand tu filmais l'usine de Sochaux. Elle a encore sa fonderie, elle a encore sa sellerie, c'est la vieille usine, il n'y a pas encore de sous-traitants à proximité, et c'est vraiment la vieille usine comme j'ai connu Sochaux. Et ils font du vin sur les collines à côté de Stuttgart. Ils ont du pinard qui doit être complètement pollué au mercure parce qu'il y a quand même les rejets de la fonderie. Et ça donne un vin un peu dégueulasse, un blanc un peu dégueulasse que tout le monde boit parce que chacun un petit coin de vigne. Et c'est des trucs marrants à voir. Et donc voilà, mais moi je crois qu'il ne faut pas non plus être pessimiste. Moi je crois que la rencontre entre des jeunes cinéastes et puis des jeunes ouvriers se feront sûrement différemment que celles qu'on a pu vivre nous. Et elle se fera inévitablement, le mouvement social est comme ça. Alors dans quelles conditions, comment, avec quel discours, avec quel rêve, avec quelle utopie, ben voilà, mais ça se fera, je veux dire. On est au fond, là, avec Fillon en plus, on est vraiment au fond. On peut encore remonter, hein. Il n'y a plus d'alternative. Qui nous pousse, voilà.
Lo, par rapport à ta question, du coup, j'ai envie de la retourner à toi et Olivier. qui avait fini deux films de lutte quelque part, enfin en tout cas avec la question du politique, toi avec les scotcheuses à la ZAD, toi avec le groupe Boris Barnett, donc je vous retourne la question.
Comment dire, on a fait un film collectif dont la construction a duré 8 ans quasiment, qu'on a présenté juste avant que vous arriviez.
Salaud d'argent,
ça s'appelle Salaud d'argent, que ma langue s'attache à mon palais. Et d'une certaine manière, ce que je peux dire qui a été très important, c'est qu'avant de faire des films, on était dans une coordination à Paris des intermittents et précaires, parce que la question de la précarité, comme tu parlais des intérimaires, c'est aussi quelque chose qui est remonté. Et on s'est dit que les affaires culturelles, c'était aussi nos affaires, c'était pas simplement, il n'y avait pas que la question des droits sociaux, il fallait aussi continuer. Et donc on a commencé par regarder des films, en considérant que regarder des films, c'était aussi en faire, quoi. Et et c'est une chose qui nous est venue aussi du groupe Medvedkin et des cassettes VHS qu'on avait, qu'on se montrait. Alors le film, après, il est ce qu'il est, mais on a tenté aussi, avec nos vicissitudes, nos difficultés dans le travail et nos souhaits, nos désirs, de fabriquer quelque chose collectivement. Voilà, c'est pour...
Ça partait aussi ça s'appelait le groupe Boris Barnett.
Oui, mais ça, c'est un peu une boutade, c'est-à-dire qu'il y avait eu Vertov, il y avait eu Medvedkin, c'était un peu lourd, et on s'est dit, un jour à Cannes, on est allé foutre le bordel là-bas pendant le festival, et on était au bord de la mer Bleue, quoi. Et c'est un film de Barnett, et donc on s'est dit, tiens, si on s'appelait Barnett, ça a donné des cinétracts et tout ça, enfin voilà, c'est pour dire aussi que les choses, elles continuent dans une forme d'héritage un peu oblique, comme ça, mais c'est pour ça que c'est chouette de vous voir aussi hier, voilà, c'est raconté un peu. Et on l'a fait en 16 mm, noir et blanc, ouais. Et en son direct. C'est-à-dire qu'on... Donc tout l'argent, le peu d'argent qu'on avait, et la pellicule s'est développée au labo, à l'Abominable. C'est un labo, de partagé où on développe encore du Super 8 et du 16 dans la banlieue parisienne. Et il y a beaucoup de jeunes gens aussi qui viennent recommencer à tester cette sensibilité-là de la pellicule. Donc c'est marrant, tout ça, c'est des... Donc, il n'y a pas de progrès, il y a des survivances qui continuent à travailler, quoi.
Voilà. Et toi, Lo?
Nous, on a... C'est pas évident de m'enregistrer, tu vois. Nous, on a un groupe qui s'appelle Les Scotcheuses, et on fait des films collectivement en Super 8, où on essaye de reprendre la chaîne et de les monter avec les ciseaux, quoi. Et en fait, on a fait deux films sur un endroit de lutte, qui la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, essayer de voir comment cette lutte... raconter des choses entre ces associations, entre des militants radicaux et des paysans, et de voir et on a essayé de faire des films en cassant la notion de celui qui s'est filmé, qui s'est tourné et qui s'est monté, et de retravailler une horizontalité, quoi, et de voir comment on pouvait... On s'est inspiré des groupes Medvedkin, on les a beaucoup regardés, et d'essayer de voir comment... Parce qu'on trouvait que le cinéma dit militant de notre époque était très figé dans quelque chose de très discursif, où on disait aux gens comment voir, comment penser, qu'il était très pauvre formellement, et que pour nous, ce qui restait du cinéma... Ce qui était important pour nous dans le cinéma militant, c'était ce qu'on avait vu dans les films Medvedkin, où la question du fond et de la forme était exigeante, quoi. Et donc on a essayé de faire quelque chose dans le cinéma militant qui ne soit ni un documentaire discursif, ni une fiction, de réinventer une forme. Quoi. Et on a fait deux films à cet endroit-là. Quoi. Donc on essaye de continuer cet héritage à notre manière. Voilà.
Bah oui, tout n'est pas fini, effectivement. Il y a encore beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à dire. Beaucoup de choses à filmer.
Alors, je ne sais pas si tu te souviens, Bruno, quand on avait monté, que j'avais récupéré les images du conflit de 89, c'était une grande grève de 7 semaines, et que tu étais venu à Montbéliard monter, qu'on avait perdu le son.
Ouais.
Tu te souviens, la maison des jeunes de Montbéliard, et qu'on était les deux sur le banc de montage.
Je connaissais rien à la vidéo.
Voilà, et on perd le son, et on se dit, il n'y a qu'une solution, c'est de faire le son comme ça. Donc je me suis mis à commenter les images, et Bruno montait au fur et à mesure. Et c'est devenu maintenant, ils forment les ethnologues avec à Paris. C'est Pialou, c'était un truc. Et donc les ethnologues voient ce film. En fait, ils n'aiment pas l'image, parce qu'elle est moche, mais c'était les trucs d'actualité, en fait. Mais alors, la bande son qu'on a réalisé en commentant les images en direct directement sur le banc, là c'est très apprécié. Je vais te le dire parce que c'est un truc qui est...
Ça s'appelle comment ?
Bah, c'était le conflit de 89, alors voilà, mais il faut demander à Michel Pialou. C'était lui, après, il est venu pour récupérer ça, et puis après, il s'est occupé de son truc. Mais nous, ça nous avait fait beaucoup rire, parce qu'on était les deux comme des cons, on a perdu le son, il n'y avait plus rien. Donc on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait ? On va le commenter en direct. Et ça avait duré toute une journée hein, complète. Hein, on avait...
Ça doit être ma seule expérience vidéo, parce que moi, le cinéma, c'est resté le film 16 mm... Je n'ai jamais. J'ai essayé de tourner en vidéo, je ne m'en sortais plus du tout. De toute façon, maintenant, je ne vois plus rien. Alors, enfin, je ne vois plus rien. Je ne vois plus suffisamment pour filmer. Et puis je n'ai pas envie, en plus. Place aux jeunes.
Je peux rajouter quelque chose. Sûrement, c'est que Bruno, quand même, était quand même quelqu'un d'extraordinaire. Parce que maintenant, quand je regarde les films, on les regarde différemment. Il y a 30 ans, on les regardait pour voir. Comment que ça se déroulait, la finalité, et puis maintenant, vu qu'on les connaît bien, des fois je les regarde, et je regarde comment c'est filmé, et je trouve que Bruno était quelqu'un d'admirable, d'arriver à cueillir un regard, moi dans Septembre au Chilien, ce regard de cette nana qui est à la porte du stade de Santiago, ben voilà, quoi, c'est ça, Muel, c'est le moment donné où il trouve quelqu'un, il se fixe dessus, et puis voilà, ça avance. Ben, à l'usine, c'était pareil, enfin, les sorties d'usine par Bruno, c'était ça, suivre un bus, suivre un mec en vélo, c'est voilà, un charme et une sentimentalité très différente, une tendresse dans l'image très différente. Bon, après, c'est dommage, Bruno, on s'en va.
Allez, ben, merci à vous tous, voilà, on était aux terrasses du Vieux-Port avec Bruno, Olivier, Francis, Christian, David, pour une émission d'enquête d'un cinéma.